Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Alors c'est comme ça que les choses arrivent.
Au début des années 80, un médecin andrologue de Toulouse, le docteur Mieusset, lance une nouvelle méthode de contraception masculine, une alternative au préservatif et à la vasectomie, appelée pudiquement la méthode thermique, mais on parle plutôt de slip chauffant. Le nom fait un peu peur, peut-être parce qu'il rappelle les couvertures fourrées de résistance électrique branchées sur le secteur, mais la méthode du docteur Mieusset utilise seulement la chaleur naturelle du corps, et ce, grâce à un sous-vêtement adapté. Pas vraiment un slip en fait, mais plutôt une espèce d'accessoire, pas exactement sexy, quoique, un petit dispositif en tissu que l'on enfile sous son caleçon et qui permet à l'utilisateur, si j'ai bien compris, de positionner ses organes et la peau de son scrotum de manière à faire remonter les testicules au plus près du corps et de les maintenir ainsi bien au chaud à 37 degrés. C'est cela qui entraîne une diminution de la production de spermatozoïdes. Le patient doit tout d'abord effectuer un premier spermogramme, porter ensuite le slip chauffant tous les jours 15 heures par jour pendant 3 mois. Mais il paraît qu'on s'y habitue en fait assez vite. Puis il faut à nouveau faire une analyse pour vérifier que la production de spermatozoïdes a suffisamment baissé. Une fois le résultat confirmé, il pourra enfin utiliser son slip chauffant comme moyen de contraception. La méthode peut sembler un brin compliqué, mais elle est prescrite par plusieurs plannings familiaux. Et elle a quand même l'immense avantage d'être 100% naturelle, réversible et bon marché. Elles permettent en tout cas à une ou deux centaines d'hommes en France de maîtriser leur fertilité en toute autonomie, d'assumer cette responsabilité dans leur couple ou au moins de la partager avec leur partenaire. Imaginons que ces adeptes soient plus nombreux, beaucoup, beaucoup plus nombreux, qu'un slip chauffant devienne aussi banal qu'une plaquette de pilules au fond d'un sac à main. Cela ne résoudrait pas tout aux histoires que l'on va entendre, loin de là, mais cela changerait sans doute la manière de les raconter et ce que l'on a envie d'en penser. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, reconnaissance et mystère de la paternité, ceux qui voudraient mais ne peuvent pas, ceux qui pourraient mais ne veulent pas, seront-ils détestables, seront-ils admirables, des géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, jusqu'à 14h, La quête du père, par Émilie Chaudet.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Corentin Pavolucci, j'ai 22 ans, je suis né à Angers, j'habite à La Baule, je suis né le 20 novembre 1997 de ma maman, qui était la maîtresse de mon papa, qui était mariée, qui avait deux filles, elle en fait c'était sa salariée, puis ils ont eu une très belle histoire d'amour, il l'avait installée dans un appartement pas loin de l'entreprise, il avait acheté la poussette, il m'avait même choisi mon prénom. Je devais m'appeler Marc, et quand ma maman a accouché, il est venu me voir à la maternité, et puis après il est rentré chez lui, et puis il est jamais revenu. Il est retourné avec sa femme qu'il n'avait pas quittée, quoi. Ma maman se retrouvait toute seule, alors déjà qu'elle était fragile psychologiquement, fait de l'anorexie mentale, du coup bah là c'était l'enfer, quoi, se retrouver avec un enfant tout seul. Elle a été à sa porte, c'est sa femme qui a ouvert. Sa femme, elle m'a pris, et puis elle m'a gardé une nuit. Le lendemain, ma mère est venue me chercher, il m'a donné à ma mère, il a balancé les couches et il a dit « Maintenant, tu gardes ton fils. » C'est ma maman qui me l'a raconté. Ma maman, elle était consciente de ne pas pouvoir s'occuper toute seule de moi. Du coup, elle m'avait confié à mes grands-parents. À la fin, mes grands-parents voulaient plus que je voie ma maman pour me protéger. Sauf que ma maman avait quand même l'autorité parentale, donc elle a décidé de me confier à la DAS. Elle a dit, la meilleure place, ça sera dans une famille équilibrée, avec un papa, une maman, qui ont de l'amour à donner. C'est la gendarmerie qui sont venus me chercher. J'étais en train de faire la sieste. J'avais genre 2 ans. J'étais perdu à ce moment-là. La première famille d'accueil, je suis resté 11 ans et demi chez eux. C'était des fermiers. C'était hyper sympa parce que j'allais au collège la journée. Et le soir, je rentrais à la ferme et tout. J'allais faire la traite des vaches. Il y avait les lapins. des vaches à viande. Le week-end, j'allais dans les champs. J'ai commencé à conduire sur un tracteur. Enfin, c'était trop, trop bien. Je les aime trop. Et puis, ça a commencé, en fait, à se corser à mon adolescence. Parce que j'ai fait des tentatives de suicide. J'avais forcément le manque de mon papa qui était là. Ces hommes-là, ils ruinent nos vies et ils partent comme ça. Des hommes qui réfléchissent pas avant de faire un enfant et jamais ils vont se poser la question est-ce qu'il va bien ? En tout cas, mon père, il le fait pas. Ma mère, elle a commencé à me montrer des photos de lui, je devais avoir 10 ans. Elle a toujours été très transparente sur le sujet. Ça a toujours été lui et pas un autre. C'est un homme génial. Elle a toujours été très amoureuse de lui. Voilà. Et puis quand j'ai commencé à grandir un peu à l'âge de 18 ans, 19 ans, là, on a commencé à voir qu'effectivement, les photos, je lui ressemblais beaucoup. Il a les yeux bleus, il est grand, il est beau. Je connaissais son nom, son prénom, là où était son entreprise. J'avais regardé sur Facebook, j'avais déjà vu les photos. Sur les réseaux sociaux, je retrouve mes deux sœurs. Elles m'ont demandé si j'allais bien. On a des échanges pendant une heure et demie, qui me confirment en fait qu'elles savent que j'existe, qu'elles abordent jamais le sujet en famille parce que c'est quelque chose de très compliqué. Et voilà, elles ont fait leur vie, elles sont heureuses et je suis très heureux pour eux d'ailleurs. J'ai eu 18 ans, j'ai eu le permis. J'ai décidé d'aller à son entreprise tout seul comme un grand. Je suis arrivé sur le parking. Lui est arrivé avec sa vieille Renault au même moment. Et il m'a vu, il m'a regardé. Il savait très bien pourquoi j'étais là. Je pense qu'il s'est attendu toute sa vie à ce qu'un jour, soit j'arrive à son entreprise, soit ce qu'on se croise quelque part. Là, le moment était venu, quoi. Avec mon ami, on s'est mis sous un espèce de préau. Il est venu nous rejoindre. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne suis pas ton père, tu ne connais pas l'histoire. » Enfin, dans la négation totale, quoi. Et puis, il est reparti, moi je me suis pas énervé, j'avais rien à dire de toute façon. Je repars avec mon ami, on a dû aller après boire un verre sur un boulevard à Angers. Et puis, la vie reprend son cours, quoi. C'est pas parce qu'il dit que je suis pas son fils que je suis pas son fils, quoi. J'y suis retourné une deuxième fois, 4-5 mois après. C'était un midi, il faisait pas beau, le ciel était gris. C'est sa femme qui m'accueille. Gentiment, elle me dit, viens, on va au bureau. Elle m'a dit, Corentin, oui, effectivement, je t'ai gardé. Je sais que t'existes. Et ton père est né quelques jours après toi. Chaque anniversaire de ton papa, j'allume une petite bougie pour toi. Je lui dis que c'est compliqué quand même la vie sans son papa et que je lui en veux pas. Et là, il arrive, quoi. Il me dit très vite, hein, il me dit « tu pars », il me raccompagne jusqu'à la route. Il se met en plein milieu de la route et il me dit « maintenant tu pars » et tout. Et je suis reparti. À cette époque-là, j'étais à Cholet en foyer. Et vu que j'étais majeur maintenant, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, m'ont dit « Corentin, t'es majeur, donc c'est soit t'es autonome, soit tu retournes chez maman ». Un peu tout seul, j'étais en pleine étude, je passais mon bac pro commerce, je quitte l'école, je me retrouve chez ma maman, qui est dépressive, accro au cannabis. Je m'installe chez elle, donc elle qui ne me connaît pas en fait, enfin on s'est vu le week-end, des journées, mais elle sait pas qui est son fils et je trouve un travail dans un fast-food et 4 mois plus tard elle me met à la rue. Je me retrouve à dormir dans ma voiture. Ça a duré 4 mois. 4 mois, en fait, à voler dans les magasins pour manger, dormir sur des parkings dans ma voiture, avec un plaid. Voilà. Un jour, je rencontre Richard sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, il me propose de venir à la boule. J'arrive. Il me dit, mais Corentin, donc là, t'es à la rue. Je t'ouvre la porte de ma maison et Et je te propose de vivre comme un garçon normal de 18 ans. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai regardé par la fenêtre, il y avait un restaurant. J'ai imprimé un CV, j'ai été postulé au restaurant, j'ai été embauché. Puis là, ma vie a complètement changé, je me suis pris en main. J'ai eu de la chance d'être bien entouré. Et du jour au lendemain, j'ai appelé une avocate. Là, elle me dit « T'inquiète pas, Corentin, c'est parti, on ouvre un dossier. » Mon papa, je l'attaque devant le tribunal de grande instance pour ordonner une expertise de sang. J'ai dû retracer toute ma vie, j'ai dû retourner voir mes familles d'accueil, ma mère. Et tout a commencé de là. Ça allait m'aider en fait à me reconstruire, à savoir qui j'étais, d'où je venais. Puis voilà quoi. Un matin, il y a un huissier qui est venu lui déposer l'ordonnance du tribunal. On va être convoqué dans un laboratoire. Mon père a le droit de refuser d'aller à cette expertise de sang. J'espère que si les analyses concordent, en fait, ça y est, ça sera terminé. Et puis c'est pas grave, et je lui en voudrais jamais, mais j'ai besoin de mon père, en fait. Enfin, je peux pas vivre sans lui. Il peut pas me renier toute sa vie, quoi. C'est pas possible.
Alors, j'ai bientôt 60 ans. J'ai deux enfants. Je gère un groupe d'entreprises entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens. Mon divorce est arrivé au bout de 17 ans de mariage. On s'était connus sur le banc de l'université, on est tombé amoureux, puis après, j'avais 42 ans, et je commençais à m'ennuyer un petit peu, et puis il y a eu un divorce. Donc, j'étais libre comme l'air. Comme je voyage beaucoup, en gros, j'avais une amie dans chaque ville, en gros. Et une de ces amies-là était une ancienne collègue. On a noué une relation un peu plus intime. Et puis, chaque fois que j'étais pas loin dans la région où elle habitait, donc pas loin de Munich, on s'appelait, puis le soir on dînait ensemble, on passait la nuit ensemble, et puis on se voyait peut-être deux fois par an, jamais plus que ça. Cette dame vivait en couple et m'avait invité pour un week-end, pour un concert. C'était très agréable. Après, chacun est parti à ses occupations. C'est exactement 100 jours plus tard, elle m'a demandé si j'étais dans les parages, qu'elle aimerait bien me voir. J'avais refusé parce que j'avais d'autres occupations. Elle a insisté, donc je lui ai dit de venir prendre le petit déjeuner avec moi à l'hôtel, donc avant mes prochaines réunions. Donc elle est venue, puis là elle me montre une photo échographie. Moi, tout naïvement, je la félicite. C'est là qu'elle m'annonce que c'était mon enfant. Moi, je dis, c'était hors de question. Et je lui dis, moi, j'ai pas envie de le garder. Elle a dit, moi, je veux le garder. J'ai 41 ans, donc c'est la dernière chance. Je dis, mais on n'en a jamais parlé de ça. Je suis parti fâché et je ne l'ai plus jamais revu. C'est aussi simple que ça. Dans ma tête, c'est clair, net et précis. J'ai deux enfants que j'adore par-dessus tout. Je ferai tout pour mes enfants, mais ce sont mes enfants. C'est des projets de vie avec leur maman. Donc, elle veut le garder. Je dis, si tu veux le garder, tu le gardes, mais fous-moi la paix, en gros. Je sentais tout de suite que c'était pas un accident, que c'était voulu. Et après, en discutant avec des amis communs, en collant les morceaux ensemble, c'était vraiment calculé. Elle s'était confiée à une amie et elle a dit qu'elle a envie d'avoir un enfant, que sa relation avec son concubin n'est pas claire, qu'il ne se touche plus. Elle ne m'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, quand elle a annoncé sa grossesse à son ami a pris ses valises et il est parti. « Il y a eu quelques échanges d'emails et c'est là qu'il y avait même des propositions de dire « Mais de toute façon, tu es célibataire, hein, on peut vivre ensemble, etc. » Je dis « Mais autre question. » Toutes les amies avec qui je sortais savaient que ce week-end, je suis là, le week-end prochain, je suis ailleurs et un mois plus tard, j'étais avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était clair, net et précis depuis le début. Je n'ai jamais tourné autour du pot. Donc je dis « Moi, j'ai rien contre l'enfant. Si tu veux le garder, moi, je veux bien mettre 300 euros par mois sur un compte bancaire. » Et à la majorité, à sa majorité, elle peut, parce que c'était une fille, elle peut avoir accès à cet argent. « Ouais, mais avec tout ce que tu gagnes, tu peux payer plus que ça. De toute façon, tu seras obligé. Je connais les lois en Allemagne. Vu ton salaire, tu vas être au maximum, etc. » Pendant un an, il ne s'est rien passé. Et un jour, donc il y a une lettre recommandée qui arrive de la caisse d'allocation familiale en Allemagne, me demandant de remplir certains feuilles de reconnaissance d'enfant. Hors de question. Et puis un jour, c'était en 2010, pratiquement 2 ans plus tard, je reçois une convocation pour faire un test de paternité, que j'ai refusé de faire. Du coup, la caisse familiale défendait l'enfant. Ils m'ont attaqué en justice pour payer la pension alimentaire de l'enfant. C'est un jugement de tribunal en Allemagne qui a vu mon refus de test ADN, par défaut, m'a condamné à être le géniteur de cet enfant. Donc cet enfant a un bout de papier qui dit que c'est moi son géniteur et payeur. De l'autre côté, moi j'ai porté plainte en France pour paternité imposée. C'était la première fois qu'en France on fait cette démarche-là, donc j'avais demandé juste 1 euro symbolique de dommages et intérêts. On n'a pas vraiment gagné, mais en tout cas, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de paternité imposée. Je me suis renseigné sur le sujet. Je n'ai pas gagné mon euro symbolique, mais dans le jugement final de ce procès, la juge a mentionné le terme paternité imposée. C'est très difficile à prouver, donc j'ai amené des témoignages, etc. Et puis, le jugement de tribunal en Allemagne, pour les arriérés de pension alimentaire, qui étaient à hauteur de 25 000 euros, donc on a à moitié gagné. Les arriérés à payer étaient que de 15 000 euros. Et je continue à payer. C'est pas loin de 600 euros par mois qu'il faut mettre sur la table. J'ai jamais voulu payer la femme directement, donc ça passe par la caisse d'allocation familiale allemande qui après, elle verse cette somme-là à la femme. Moi, j'ai zéro contact avec cette femme-là. La fille aujourd'hui a 12 ans, que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de connaître. Mais j'ai gardé, bien sûr, toutes les traces du combat, parce que j'appelle ça un combat... vis-à-vis de cette tricherie. Et je m'attends qu'un jour, cette fille va se pointer pour connaître son géniteur. Je vais certainement bien la recevoir, parce que je reçois bien les gens, et puis je vais sortir le dossier, et puis je vais dire, voilà, je lui donne un coin de bureau, qu'elle passe sa journée à lire si ça l'intéresse. Mais ça s'arrête là, j'ai zéro sentiment pour cet enfant-là. Elle n'est pour rien. C'est un choix de sa mère, et c'est clair, net et précis, dans tous les documents que j'ai, que c'était le choix de sa mère et pas du tout le mien. Mon histoire m'a empêché à quelques reprises de bien dormir. Je me suis remarié en 2013. Mon épouse actuelle, elle connaît l'histoire. Mes amis, mon entourage proche connaissent l'histoire, mais j'ai toujours, à ce jour, réussi à protéger mes 2 enfants. Mes enfants ne connaissent pas l'histoire.
Pourquoi vous n'avez jamais voulu leur dire? Vous avez peur de quoi?
La peur de reperdre mes enfants une deuxième fois. Parce qu'au divorce, ma fille avait 14 ans et pendant 5 ans, elle n'a jamais voulu me parler. J'ai lutté par des lettres, par des appels, par tout ce qu'on peut faire pour se rapprocher de sa fille. Pendant 5 ans, j'ai pas vu ma fille. Quand je l'ai récupérée, elle avait 20 ans. On s'est réconciliés, donc on a retrouvé une vie normale. Et sincèrement, j'ai de nouveau peur de la reperdre. pour encore quelques années. Donc si je peux me protéger de ça, tant mieux.
Je suis Camille, j'ai 21 ans, je travaille en crèche depuis 2 ans et j'habite à Champy, près de Rennes.
Je m'appelle Obaidola et j'ai 20 ans, je viens d'Afghanistan, je suis venu en 2016 et après j'ai resté un mois là-bas à Paris, après ils m'ont envoyé ici à Rennes. Dès que je rentrais à Paris, j'ai demandé des papiers depuis 2016. Après de ça, j'ai commencé à passer ma diplôme de maçon. Là, j'ai ma diplôme, j'ai tout, mais je peux pas travailler parce que j'ai pas de papier. Camille et moi, on s'est rencontrés par des amis. Pendant longtemps, on était des potes.
Et en fin d'année 2017, on s'est mis ensemble. J'étais attirée par Robert parce qu'il était gentil avec moi. J'étais victime de violence conjugale. J'étais vraiment pas bien et quand j'ai vu Obed, le fait d'être gentil, de me faire rire, ça m'a aidé à montrer que j'avais le droit d'être encore heureuse. Je suis tombée enceinte quelques mois après. Pour ce qui est l'accouchement, moi je voulais prendre des cours avec la sage-femme. Tous les papas n'y participent pas, mais Obed a fait le choix d'être présent aux cours de préparation. Il m'a beaucoup aidée, il s'est énormément investi. J'ai accouché le 28 mars 2020. On avait commencé 2 mois avant mon accouchement à anticiper la reconnaissance en paternité de Mina.
J'avais un récépissé de demande d'asile. Bon, on l'a donné cette papier et il dit que tu ne peux pas connaître ta fille parce que tu n'as pas un passeport, tu n'as pas une carte de séjour. Que maintenant en France il y a plein de gens et elle fait des bébés pour avoir des papiers et tout.
Du coup ça a été refusé à la mairie de Champy, sans identité française ou titre de séjour ou passeport. Les pères ne peuvent plus reconnaître leurs enfants pour éviter les fraudes.
Mais moi j'ai pas fait un bébé pour avoir des papiers, c'est ma bébé. J'ai envie de rester avec elle, qu'elle a une papa dans sa vie. Hein. Elle peut pas rester sans papa. Ça m'a rendu un peu triste, parce que pour l'instant, elle n'a pas de papa. Je suis son papa, mais elle ne peut pas avoir mon nom. Genre, c'est un peu, ça te rend un peu triste. Toute la journée, il est avec moi. Je le douche, je le change sa couche, je le donne à manger, je le promène, je le prends dans mes bras. Je lui fais des massages quand elle dort, je discute. Si sa maman n'est pas là, après je le parle dans ma langue. Mais quand sa maman elle est là, après on parle en français. On parle de plein de choses. Hein? Bien, bichi, viens. Gabos en envoyé. Et là, moto, offarine. Offarine. Je lui dis comment il est arrivé et qu'il. Qu'il est arrivé pendant le corona, que c'était difficile, on ne peut pas sortir de l'hôpital et on était fermé dans une chambre 7 jours. Il rigole, il pleure jamais, il est tout le temps content. Il voulait raconter sa histoire.
On avait pensé déjà faire un test ADN pour prouver en fait que c'était bien son enfant. Finalement, c'est seulement par la décision d'un juge qu'on a le droit de faire un test ADN et qu'Obed puisse reconnaître sa fille.
On a vu un avocat et on attend qu'on peut passer devant le juge, qu'elle prend ma sang, qu'elle prend le sang de la petite, qu'il peut voir que moi je suis son papa. Bon, on attend ça.
C'est une avocate qui prend en charge en fait des enfants mineurs et là elle a fait la demande pour notre fille qu'elle veut que son papa puisse la reconnaître aux yeux de la loi. Ça peut être long, comme nous a dit l'avocat.
Un an. Oui. Il dit jusqu'à un an.
Mais oui, j'ai espoir quand même que ça marche. Les épreuves là qu'on a passées ensemble, ça nous a soudés beaucoup. On est toujours tous les trois. Enfin, on voulait vraiment faire notre famille à nous. Mais c'est comme si j'hébergeais un homme qui n'avait pas de lien avec nous, alors que c'est le papa et c'est celui qui vit avec moi. J'ai été adoptée à la naissance. Je suis arrivée à 15 jours en France. Je venais de Tahiti. J'ai grandi toute seule avec ma maman. Et quand j'ai eu ma fille, j'avais besoin qu'elle ait un père.
Ah, ça y est, papa a dit, c'est l'heure de dormir. Il connaît ses rythmes, son papa. Hein? Moi, quand je viens, il me dit, ah, elle va moins dormir s'il y a sa mamika aujourd'hui. Tu dors mieux quand il y a ton papa avec toi. Ben oui, et nous, on se promène et on dort pas pendant ce temps-là. Pour l'instant, moi, je me dis qu'au quotidien, au bête, il est bien le papa. Pour Mina aussi. Je les vois heureux tous les trois, mais... en même temps soucieux et triste, quoi. Moi, je voudrais qu'il y ait une issue heureuse pour eux trois, qui forment leur famille, qu'ils ont tant espéré, leur famille à eux, et que là, cette petite, elle vient vraiment prouver que ça y est, quoi. Ils l'ont, leur famille. Ah.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, la quête du père, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Valentin Azan-Zielinski. Merci à Oubedoula, Camille et sa mère, Mina, Corentin, Michel, Maître Marie Plard et les membres de l'association Même pas père. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire. If I close my eyes. The beast will close its eyes. If I stop swimming, the beast will dive. We sank a lot of ships together. Now the ocean is empty, but I get through. I make it for you. I make it through. Against the numbers, against all.